Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font. Nous sommes aujourd'hui reçus par Guillaume à la ferme de Nayac, qui élève des vaches au braque et des cochons bayeux destinés à la vente directe.
Alors déjà, bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ?
Mais bonjour, donc je m'appelle Barreau Guillaume, donc de Saint-Romain-de-Tarn. J'habite à Saint-Africain.
D'accord.
Donc et je travaille tous les jours.
Et on est sur quelle ferme, là ?
Alors, c'est une ferme, donc c'est une grosse ferme, il y a à peu près 300 hectares. Et donc, on fait des vaches et des cochons.
On est à la ferme de Nayac.
La ferme de Nayac, c'est ça.
Ouais.
Pour certains la connaissent plus sous le nom de chez Paulette.
De chez Paulette, en effet.
Voilà.
Et vous êtes un GAEC, donc ?
C'est ça, on est un GAEC, donc deux associés. Donc, pour ceux qui connaissent, avant, ça s'appelait le GAEC Gros et Barreau. Il y a de ça maintenant 3 ans. Ce GAEC a arrêté, donc, parce que bon, Monsieur Gros est décédé en 2008. Et donc maintenant, j'ai trouvé une nouvelle associée. Donc, c'est une jeune fille de 25 ans qui s'est installée il y a maintenant un an. Et donc maintenant, ça s'appelle le GAEC Barreau et Brouy.
Et alors, qu'est-ce que vous produisez sur cette ferme ?
Alors, cette ferme, donc, on fait des vaches au braque et des cochons.
D'accord.
Et donc, c'est des cochons de Bayeux. Donc, c'est un peu une particularité. C'est-à-dire qu'il n'y en a quasiment plus en France. C'est une race protégée. Enfin, c'est vraiment un peu unique. On est un des derniers producteurs de cette race-là.
J'ai vu aussi, en venant sur le panneau, vous avez le label AB.
Voilà, c'est ça. Donc, les vaches, les cochons et toutes les terres donc, sont en agriculture biologique. On y est depuis 2007, voilà, et donc du coup, on vend tout en agriculture biologique.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce type d'agriculture, alors ? Pourquoi avoir choisi le bio ? Pourquoi avoir choisi les cochons ?
Alors en fait, moi, il faut pas repartir de l'historique.
Ouais.
Moi, je suis arrivé sur l'exploitation, je me suis installé en 2001. Donc, et sur l'exploitation, il y avait des vaches, donc des aubraques, et des brebis laitières. Bon, moi, je suis pas fan des brebis, ça me stresse un peu, c'est des animaux. Donc du coup, on a arrêté les brebis laitières. Et on a continué les vaches et on s'est lancé dans la vente directe. Donc ça, c'était en 2002. Et la vente directe a pris énormément d'ampleur. Et donc en 2006, on a tellement eu de demandes en bœuf qu'on ne pouvait plus fournir. Et on faisait beaucoup de transformations en tout ce qui était bœuf et veau, de produits préparés. Et on utilisait du porc. Et on était obligé d'acheter du porc pour justement faire assez plat. Et donc on a dit au lieu de l'acheter, pourquoi on ne le produirait pas ? Et c'est là qu'on s'est lancé donc, dans la production de cochons. On a abattu nos premiers cochons en 2008.
Alors, à peu près combien de têtes vous avez, combien de vaches et combien de cochons ?
Alors, on a aujourd'hui, on a 60 mères vaches. Et après les cochons, on a une quinzaine de truies. Donc, ça fait à peu près allez, 200 cochons par an qu'on abat. Voilà. Et donc, tout ce qu'on fait, c'est fait pour la vente directe. C'est-à-dire que sur la ferme, on ne vend pas un animal vivant. Tout part en tranche, en steak.
D'accord, en transformé. Quoi.
Transformé. Et on ne livre quasiment que du particulier. Bon, après, ça, c'est plus de la commercialisation, mais on fait toute la côte méditerranéenne.
Ah
c'est-à-dire
oui.
De la frontière espagnole à la frontière italienne.
Ah oui ?
Voilà.
Comment vous faites ? C'est vous qui amenez la...
C'est moi qui livre. Donc, voilà, je prépare mes commandes à l'atelier du Coupe de Brasque. Et voilà, et après, je vais livrer. Quand c'est loin, c'est sur 2 jours. Si c'est pas trop loin, c'est sur 1 jour.
Vous avez toujours été dans l'agriculture ?
Alors, moi, mes parents ne sont pas du tout agriculteurs. Donc, ils étaient employés. Mon père était comptable, mon mère était employée à la Sécu. Et moi, depuis tout petit, en fait, je rêvais de faire agriculteur parce que j'avais mon oncle qui était agriculteur. Donc, j'ai fait toutes mes études là-dedans. Je passais toutes mes vacances donc, chez mon oncle à travailler à la ferme. Tout ça, voilà, c'était. Je voulais faire ça. Et donc, même, je devais normalement, au départ, m'installer donc, chez mon oncle. Et en fait, le gros problème, c'est qu'on n'avait pas la même vision de l'agriculture de demain. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Donc moi, je suis parti. J'ai dit, c'est pas grave, je trouverai une ferme. Voilà. Donc je suis parti faire un salarié agricole. J'ai pas eu à chercher très longtemps, puisque donc justement la ferme donc de Francis et Paulette, ils cherchaient un ouvrier. Et donc, aussi sec, dès que j'ai fini mes études, j'ai retrouvé du boulot donc, chez Francis et Paulette. Donc, ils m'ont proposé de me prendre un salarié. Donc, je suis resté salarié pendant 3 ans. Après, il a fallu qu'ils déménagent de ferme parce qu'ils étaient à la ferme de Touloupi.
Oui.
Voilà. Donc le propriétaire a voulu reprendre. Donc du coup, il a fallu qu'il déménage. Et c'est là qu'on est venu à Nayac. D'accord. Et en faisant le déménagement, je me suis installé à ce moment-là. D'accord. Donc c'était en 2001.
Et qu'est-ce qui vous a fait réfléchir au fait qu'il fallait passer en vente directe et pas par les intermédiaires ?
Moi, il n'y a que l'agriculture qui fait ça. Il n'y a que l'agriculture qui vend des animaux sans jamais savoir le prix. Il le sait qu'à la fin. Et moi, j'ai toujours dit, ça, c'est hors de question. Moi, quand je vends un steak à un client, eh bien, le client, il sait le prix avant de l'acheter.
Comment vous avez fait alors pour développer une clientèle qui s'étale sur tout le bassin méditerranéen ?
Alors,
vous êtes allé les démarcher ? Ils sont venus vous chercher ? Il y a des réseaux ?
Non, nous, on n'utilise aucun réseau. On fait vraiment que du bouche à oreille. Donc, nous, en fait, on a accédé le départ à miser sur une communication de qualité. Quand vous vendez un bon produit, en général, ça se vend tout seul. Mais voilà, et c'est comme ça que ça a démarré. Donc, on a commencé sur un petit périmètre. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas avoir peur au début de faire beaucoup de kilomètres pour pas beaucoup de résultats. Voilà, mais c'est normal, c'est un début. Faut pas dire, ben non, j'y vais pas parce que j'ai qu'un client. Mais si, j'y vais parce que j'ai un client, et ce client va vous faire avoir d'autres clients. Et après, donc il y a eu le bouche à oreille. Et la deuxième vague, en fait, là où ça s'est développé encore plus, c'est quand on a fait le magasin à la ferme. Parce que ce magasin-là, en fait, il tourne beaucoup l'été. Parce qu'il y a beaucoup de touristes, on est dans une région, c'est en Haute-Tarn et tout ça, c'est vraiment très touristique. Ces gens-là viennent, ils nous repèrent, ils goûtent nos produits, et après, quand ils rentrent chez eux, essentiellement sur la côte, eh bien, ils nous commandent après. D'accord. Sachant que je passe, hop, ils regardent le calendrier, et ainsi de suite.
D'accord.
Et donc, ça se développe énormément avec ça.
Et vous commandent comment ? Par téléphone, internet ?
Alors, on a tout.
D'accord.
En fait, c'est simple, on a tout. Donc, on a un site internet. Ouais. Donc, c'est un site de commerce, hein, tout simplement. Vous cliquez sur la photo, vous le mettez au panier, vous validez votre commande. Alors, par contre, on ne fait pas payer à la commande.
Donc, une grosse partie commerciale, quand même, dans le travail.
Ah oui, oui. Ouais. Ouais, ça prend beaucoup de temps. Mais bon.
Et ça valorise la ferme.
Oui, mais c'est surtout que ça fait une ouverture d'esprit qui est. On ne peut pas s'imaginer. Discuter avec des gens quand vous allez livrer. Moi, souvent, quand je vais livrer, la semaine prochaine, je vais à Toulon. Et je me régale quand j'arrive à Toulon parce que souvent je vois le Charles de Gaulle. Enfin, il n'y a pas beaucoup de paysans aujourd'hui qui vont à côté de la rade à Toulon et qui voient tous les bateaux militaires. Ouais. Voilà, donc c'est quand même quelque chose. Et moi, j'y vais 5 fois par an, quoi. Donc je le vois, je vois plein de choses. Voilà, je discute avec des gens qui m'apprennent certaines choses que je n'ai pas pensées, qui m'apprennent des recettes aussi parce que voilà, ils m'expliquent qu'ils ont fait un truc comme ça avec ça. Voilà, donc voilà, c'est des échanges en permanence. Et c'est une ouverture d'esprit. Donc, c'est pas que le but financier, c'est vraiment quelque chose de. On fait notre monde, quoi. Et c'est pareil à la boutique ici. On reçoit des camping-cars. Donc, on a une aire de camping-cars qui est gratuite. Hein. C'est par France Passion. Et ces camping-cars-là font des échanges avec nous. C'est extraordinaire. On voit la France à travers les camping-cars, quoi.
Et donc, est-ce que vous en vivez bien au jour d'aujourd'hui de tout ça ? Est-ce que vous pouvez réparer les machines assez facilement ? Vous pouvez partir en vacances ?
Alors,
les vacances.
Alors, réparer les machines, oui, c'est quand même assez facile.
D'accord.
Là, c'est que j'ai un gros défaut, c'est que j'ai du mal à déléguer, en fait. J'aime tout faire. J'aime tout contrôler et j'aime tout faire. J'ai fait ce métier par passion. Donc, du coup, pour moi, c'est pas une contrainte de travailler 7 jours sur 7. Et puis, tous les jours, je ne fais pas la même chose. Quand je donne aux animaux, eh bien, c'est de l'agriculture. Si je m'occupe du magasin ou si je fais de l'étiquetage de boîte, eh bien, c'est autre chose. Quand je vais à l'atelier des coupes faire mes préparations, eh bien, là, je fais cuisinier. Alors, voilà, c'est des choses. Quand je vais livrer, eh bien, c'est le livreur. Mmh. Voilà, j'ai plusieurs métiers en un, quoi.
Voilà. Vous avez plusieurs têtes avec plusieurs casquettes.
C'est ça. Mmh. Et donc, c'est ce qui est bien, c'est qu'en fait, tous les jours est différent, quoi.
Bon alors, est-ce que c'est un métier que vous conseilleriez à un jeune qui veut se lancer, peut-être à vos enfants, que sais-je ?
Alors moi, je ne peux que le conseiller, puisqu'on recherche justement des associés, parce qu'on a beaucoup de projets et qu'en fait, on voit qu'il y a énormément d'avenir justement dans la vente directe. Et donc le jeune qui veut faire agriculteur, au contraire, il faut se lancer dans ce métier-là. Alors, il faut faire ça par passion. Il faut vraiment faire parce que ça, les animaux nous plaisent. Il faut savoir qu'un animal, il mange tous les jours. Donc il ne faut pas dire, ah ben non, moi je n'irai pas le week-end, non, ça ne marche pas, il faut y aller tous les jours. Voilà, c'est... Mais sinon, après, on est quand même son propre patron, on fait un petit peu ce qu'on veut, enfin, on travaille avec du vivant, enfin, c'est quand même...
Puis on voit le résultat de son travail aussi.
Ben, alors, après, quand vous faites l'aventure directe, c'est quand même... Là, quand les gens vous disent qu'ils se régalent et que... Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez avoir de mieux que ça, quoi. Et quand les gens reviennent et qu'ils vous disent, oh, mais là, dans la fosse, c'était une tuerie, je me suis régalé. Je veux dire, c'est tout le travail que vous avez fait, et puis il est récompensé avec ça, quoi.
Et est-ce qu'il y a des dangers, des écueils qu'il faut éviter dans l'agriculture ?
Alors moi, aujourd'hui, je te conseillerais surtout quelqu'un de s'installer tout seul. Parce qu'il faut vivre. Il vaut mieux s'installer à 2-3 associés. Comme ça, au moins, vous pouvez faire des roulements. Puis, les décisions, quand on est plusieurs, qu'on peut discuter, c'est quand même mieux que d'être tout seul et d'avoir des yeux, de dire « je veux faire ça », et voilà. L'idéal, c'est ça, c'est l'association. Alors, c'est compliqué, hein. C'est comme un mariage. Il y a des bons et des mauvais moments, hein. Je veux dire, c'est... Mais c'est quand même quelque chose de... Pour moi, c'est ça le mieux, quoi.
Alors, j'ai la grosse question philosophique. Est-ce que vous avez une idée, vous, de ce que va devenir l'agriculture, en fait, dans 10 ans, dans 20 ans? Ça fait bientôt 20 ans que vous êtes dans le métier.
Moi, ça fait 20 ans.
Et est-ce que vous arrivez à vous projeter dans les années futures? Sur l'agriculture en général ou votre cas particulier, je ne sais pas, là où vous vous sentez le plus à l'aise?
Ah ben n'importe, moi je me sens à l'aise n'importe où.
Mais alors,
moi je peux philosopher maintenant. Non, en fait, ben, l'agriculture, on va dire globale, pour l'instant, franchement, c'est très dur à diagnostiquer, parce que bon, ben, qui aurait pu prévoir une crise c'était dur à faire. Est-ce qu'il ne va pas y en avoir d'autres?
Ouais.
Est-ce qu'elles ne seront pas pires? Le climat, que va devenir le climat aussi les années futures?
Ouais.
On ne sait pas, peut-être qu'ici, sur le Larzac, il y aura des chameaux bientôt, parce que...
Non, mais, vous le voyez déjà, le changement climatique?
On le voit, mais le problème, c'est que j'ai peur qu'il s'intensifie, quoi.
Ouais.
Parce qu'on ne fait rien, on en a beau dire, il faut faire, mais il n'y a personne qui dit « on fait ». L'agriculture changera. Moi, j'ai peur qu'il y ait deux agricultures. L'agriculture, c'est-à-dire de qualité, un petit peu ce qu'on fait, donc c'est des plus petites structures, donc c'est-à-dire de la remise directe aux consommateurs, donc avec des produits de qualité, qui seront quand même assez chers, et puis de l'agriculture vraiment intensive, avec des produits vraiment, très, vraiment pas chers, de bas de gamme, parce qu'il va falloir nourrir la population. Quoi qu'on dise, à un moment donné, y a des gens qui ont beaucoup d'argent et il y a des gens qui ont très peu d'argent. Et la classe moyenne, comme on avait à l'époque, cette classe moyenne, elle a tendance à disparaître. Donc moi, je pense que la grosse agriculture va se diviser en deux, c'est-à-dire les très bons produits qui vont être livrés directement par le producteur et les très bas produits qui vont être utilisés par les coopératives ou les marchands, ou les grandes surfaces, voilà. Les grands distributeurs, et qui, eux, vont vendre des produits à pas cher. D'ailleurs, on le voit bien avec Leclerc aujourd'hui, qui propose des repas pour les étudiants à 1 euro par jour.
C'est dingue, on se demande comment on fait pour arriver à faire de la nourriture à 1 euro, enfin, un repas à 1 euro.
Un repas à 1 euro, mais surtout, moi, je ne comprends pas comment on peut donner à des jeunes qui sont en développement des produits de telle basse qualité que ça va les rendre malades, quoi. Qu'est-ce que ça va donner dans 20 ans, 30 ans? Moi, je pars là-dessus, c'est que celui qui veut bien manger, ça ne coûtera pas forcément plus cher que celui qui va acheter tous les plats préparés. Bon, voilà, j'en suis convaincu.
Ici, en Aveyron, enfin, dans le sud d'Aveyron, on est plutôt bien lotis, puisqu'on a les producteurs juste à côté. On peut faire la démarche d'aller voir les paysans, d'aller sur le marché, de trouver les produits de qualité. Dans les grandes villes, ils n'ont pas tellement ce choix-là.
Alors, justement,
ils sont plus coincés, en fait, par le système de la grande distribution.
Oui et non.
Ah.
Ça, c'est ce qu'on veut nous faire en croire. Parce que moi, aujourd'hui, on a développé un système, ça s'appelle un chrono fraîche. C'est-à-dire que moi, j'envoie des colis dans toute la France. Et c'est livré dans 48 heures. C'est-à-dire qu'en fait, moi, à partir du moment où la personne me passe commande, quand ça arrive dans mon jour d'abattage, donc dans ma semaine de transformation, le mercredi, je prépare le colis, je fais les colis pour tout le monde. Donc le mercredi, je prépare les colis. Le vendredi, ils ont le colis à la maison. Livré directement à domicile. Donc, c'est pas parce que vous êtes en ville que c'est plus compliqué d'avoir des bons produits. C'est juste un choix. C'est qu'en ville, ils se prennent pas la tête. Ils disent, ben non, nous, on passe au supermarché, on achète un truc vite fait, ou on mange. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, les gens, ils passent même pas du temps à table à la maison, ils mangent sur une table basse devant la télé. Enfin, moi, il sort de question de faire ça, quoi. Moi, le moment du repas, c'est important, oui, mais tout ça, c'est une démarche. Comment vous voulez avoir des produits de qualité si vous passez pas le temps de les cuisiner et le temps de les manger? C'est pas possible. Vous pouvez faire le meilleur des repas, préparer le meilleur des repas, si vous le gâchez au moment de le consommer, que vous mangez comme un zombie, vous savez même pas ce que vous mangez ou avec votre téléphone, enfin, ça sert à rien de faire du bon repas. Vous pouvez acheter du McDo ou je sais pas quoi, et puis ça ira très bien, quoi.
Ouais, voilà.
Donc en fait, c'est pas l'excuse que les gens habitent en ville, c'est l'excuse qu'il va falloir qu'ils prennent conscience que s'ils veulent bien manger, il y a cette possibilité-là. Mais sinon, s'ils s'en foutent de manger, il y a d'autres possibilités. Mais ça, c'est au consommateur à choisir.
There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bowed up down. Oh, below my bully boys blow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the willow man come to bring her sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take her leave and go. Da 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 da. Before the boat had hit the water, the whale sail came up and caught her. Hands to the side, harping and fought her when she dived down low. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed. The captain's mind was not of greed, and he belonged to the whaleman's creed. She took that ship in tow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. For 40 days or even more, the line went slack, then tight once more. All boats were lost, there were only four, but still that whale did go. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The willow man makes his regular call to encourage the captain, crew and all. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Du coup, il a bien fallu trouver, à un moment donné, on ne savait pas si la ferme allait pas s'arrêter, tout simplement. Parce que je me suis retrouvé tout seul.
Ouais, ça.
Ouais. Et donc, du coup, voilà. Et j'ai réussi à trouver Lauriane, elle a été intéressée, et voilà.
Bon, mais très bien. Et ça lui plaît.
Et ça lui plaît.
Bon.
Maintenant, c'est elle qui...
Et puis, elle est jeune, en plus. Donc,
ah ben, 25 ans, ouais.
Elle a de l'avenir, là.
C'est ça. Mais c'est pour ça qu'on va faire beaucoup de travaux, là. On va faire à peu près 2 ans de travaux.
Donc, toutes les terres autour, là, c'est à vous?
Voilà, tout ce
d'accord. Tour, voilà. Tous ces champs verts, plein de paquets. Et c'est quoi ce manoir là?
Là en fait, ben, tout ce qui est les terres, en fait, c'est loué. C'est d'accord. Pas à nous.
Ah.
Et eux, c'est les propriétaires.
D'accord. Voilà. Mais il n'y a personne là.
Ah ben ils viennent que pour les vacances ou l'été, voilà. Mais
d'accord.
C'est...
Et c'est des gens du coin?
Non, ils sont de Montpellier.
Montpellier. Ah.
Mais c'est ils ont ça d'héritage quoi cette ouais. Ferme. Hein. C'est voilà.
Voilà. Et c'est une vieille ferme quand même. C'est...
Ah oui, oula, ça a été un château démoli, reconstruit.
Ah oui.
Ah oui, oui, ah, il y a toute une historique.
Ah.
Mais non, un jour, il faudra que vous reveniez. On vous racontera toute une historique.
Ouais,
parce qu'on a tous les documents qui datent de je ne sais plus quelle année.
Ah.
Mais bon, voilà, il y en a tellement à parler, il faut venir à la journée après. Là, c'est voilà.
Donc c'est là, c'est un grand entrepôt, il fait combien? Presque 100 mètres, non?
Là, il fait 75 mètres, celui-là.
75, d'accord.
Donc, et dessus, c'est des panneaux solaires. Bon, là, vous les voyez.
Ouais,
c'est...
ouais.
Et tout ça, c'est des panneaux solaires. Donc, c'est des bâtiments qu'on aménage.
D'accord.
Voilà, c'est les fameux travaux qu'on va faire pendant 2 ans. Quoi.
D'accord.
Voilà. Et là, on va tout
faire. Et là, vous avez les enclos à cochons.
Voilà, et là, c'est les cochons.
D'accord. Donc c'est les bayeux, donc ils sont poilus,
voilà.
Ils sont blancs et blanc tachetés noirs. Noir.
C'est ça.
D'accord.
Les oreilles tombantes sur les yeux.
Ouais.
Voilà, c'est un peu la morphologie.
Ça, c'est une vieille race française.
Ah oui.
Ouais.
Et c'est surtout, il y en a
plus. Il y en a presque plus.
C'est voilà, c'est là vraiment là, une des dernières. On est des derniers fiefs de la race bayeux.
D'accord.
Alors qu'on est très loin de bayeux.
Oui, on n'est pas en Normandie. Hein.
Voilà.
Donc dans les enclos, vous en mettez combien à peu près?
Ah ben là, c'est... Mais il ne faut pas tenir compte de ce qui est là. Hein.
Ouais.
Parce que c'est vraiment... On va aller voir
c'est
les autres.
C'est en attendant, quoi.
Voilà, ça c'est vraiment parce que c'est en démolition, là.
D'accord.
Ça a servi pendant quelques années, ouais. Mais on s'est rendu compte qu'en fait ça pouvait plus durer, quoi. Ouais. Donc on enlève tout, on refait tout en béton comme il faut, ouais. Et il va y avoir les cours extérieurs. Donc les cochons vont sortir à l'extérieur,
ah, d'accord.
Tout va être bétonné, ouais. Vraiment quelque chose. Puis on veut, en fait, on veut les passer. En fait, il y a des normes en fait par cochon en bio en mètre carré. Ouais. Et nous, on va tripler ces normes-là pour que d'accord. Vraiment les cochons soient vraiment un super.
Très à l'aise, ouais.
Ah ouais, ça sera vraiment le spa ici, quoi. Ouais. Donc voilà, donc. D'accord. Il y a énormément de place, hein, et on en profite pour ouais. Qu'ils en aient encore plus, quoi.
Ah, ce chamaï, là.
Ah, mais ça.
Il y a un système pour qu'ils puissent boire, là.
Voilà, c'est des abreuvoirs, mais c'est des abreuvoirs automatiques, hein.
D'accord.
Alors il faut savoir que le cochon, il adore l'eau, hein. Ouais. C'est donc souvent il appuie sur. C'est des tirettes en fait qui quand ils appuient, ouais. L'eau coule. Ouais. Tout simplement, c'est des pipettes. Hein. Mmh. Et souvent ils appuient pas pour boire, ils appuient pour faire couler l'eau et après pour pouvoir se souiller à l'intérieur.
D'accord.
Voilà. Le cochon, ils adorent. Ben, en fait, ça ne... c'est la morphologie du cochon, c'est-à-dire que ça ne suit pas. Ouais. C'est un animal qui... et en plus, déjà d'un, il ne suit pas. Et de deux, c'est un animal qui est entouré de gras. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme une barrique entourée de gras. Ouais. Et donc, pour se refroidir et pour le parasitisme, ils sont obligés de se rouler dans la terre ou dans la boue.
D'accord.
Et donc là, ils se roulent dans l'eau souillée, en fait.
D'accord.
Voilà. Et donc, ouais. Du coup, ça leur va bien. Ils s'amusent toute la journée avec le nez. Ouais. Donc, c'est, ouais. C'est pour ça qu'ils s'amusent avec l'eau.
D'accord. Vous m'avez dit combien de cochons au total vous avez à peu près ?
Alors chaque année on abat à peu près 200 cochons.
200.
Et ça veut dire qu'on a une quinzaine de truies à la reproduction permanente.
D'accord.
Voilà.
Et ça c'est les cochons.
Tout petit élevage,
c'est les cochons qui vont partir à.
Voilà, ça c'est ils vont partir en steak.
D'accord.
Donc là ça c'est les maternités. Donc,
ah oui, là. Oh là là, ouais.
Et les petits cochons.
D'accord. Et vous avez les mâles reproducteurs ?
Oui, voilà tout.
D'accord.
Donc ça c'est les cochons
sauvages. Oui, les petits ! Ah oh, ben ils ont peur.
Ah ben. Et donc en fait il y a deux enclos. Ouais. Il y a le premier ici, donc c'est bétonné, ouais. C'est le premier niveau, donc là ils dorment là. Ouais. Et après tout là-bas, la partie d'en bas en fait, ouais. C'est là où ils boivent et c'est là où ils font leur déjection.
D'accord.
Parce qu'un cochon est très propre, il ne se couche pas là où il fait caca.
D'accord.
Ben, là-bas il y a un verra. Là-bas.
D'accord. Ah oui, dis donc. Ça se voit bien. Rapidement que c'est un verra.
Non, voilà, tout est.
Et ça, c'est les truies, donc.
Ça, c'est les truies de reproduction.
Et c'est... Combien ça pèse, là? Parce que c'est énorme.
Ah, elles sont pas petites. Ah, bah, ça fait presque 3 à 5 kilos.
Waouh. Wow. D'accord.
Ah oui, c'est...
3 à 5 kilos. Mais ça doit leur faire des sacrés dégâts quand ça marche sur le sol.
Ah, surtout sur si, le sol, c'est sur les orteils, c'est... ça fait des dégâts.
Ah ouais. Bonjour, mesdames.
Voilà. Ah, bah, là, ils sont tranquilles, hein.
Ah oui, bah, oui.
Ils sont pas stressés de la vie,
ils sont calmes, hein. Oh, le tout petit, oh là là. Il a quel âge, là, le tout petit, là?
Oh là, ils ont, je sais pas, 3 semaines, maintenant.
Ah, ouais.
Ben, en fait, c'est une race ancienne, donc ça pousse très petit. En fait, ça grossit très lentement, quoi.
D'accord.
C'est pas une race qui est vachement productive. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'un cochon, en fait, dans le mot cochon, il y a cochon domestique. Ouais. Et en fait, ils ont besoin de l'être humain. Uh-huh. Ils ont besoin de leur territoire, de leur enclos, ouais. D'être entre eux et dehors. Alors c'est très bien hein, l'élevage dehors, moi je veux pas critiquer ceux qui le font, parce qu'on l'a fait pendant 11 ans.
Oui. Avant vous aviez des cabanes et tout, non? Oui. Pour qu'ils soient dehors.
Ah, c'est ça. Ouais. Et on a été obligé d'arrêter. Donc déjà on avait plein de problèmes avec la sauvagine. C'est-à-dire tous les animaux sauvages,
que ce soit
les
corbeaux.
Non, les corbeaux. Non, parce qu'on avait tout clôturé comme il faut.
D'accord.
Il y avait 20 hectares de clôture avec du grillage. Tout à l'intérieur était en clôture électrique. Donc on n'a jamais de sanglier qui est venu.
D'accord.
Par contre, on avait les corbeaux, les renards qui nous mangeaient les petits à la naissance.
Ah.
Parce que même quand ils faisaient les cabanes, les renards ils rentraient, ils prenaient les petits. Donc on avait beaucoup de pertes. Après, on avait des problèmes pour récupérer les petits. Quand il fallait sevrer, c'était ouais. Abominable. Ouais. Enfin, il y a eu plein de trucs comme ça. Les truies pour les faire mettre au mâle. Ouais. Parce qu'une bailleuse, c'est pas une rose. Hein. Quand elle est en chaleur, elle vous saute dans les bras. Hein.
Ah bon?
Ah, mais elle arrive à la bouche grande ouverte comme ça, c'est pas le moment de rigoler. Quoi.
Ah ouais, d'accord.
Donc, du coup, ça devenait ingérable.
Okay.
Donc, on a pris la décision, on a dit, bon, puisqu'on a les bâtiments, on va les mettre à l'intérieur. Par contre, voilà, on a toujours voulu garder l'espace pour que justement, voilà, on retrouve des bâtiments ouverts. Hein.
Ouais.
C'est pas des bâtiments fermés parce que. Ouais. Ça ventile, quoi. Ouais, on veut qu'ils se retrouvent comme dehors. Seulement que dedans, et bien, ils ont leur territoire, leur emplacement. Mmh. Ils savent où ils sont. Mmh. Ils sont pas embêtés par les animaux, rien, dérangés par rien. Ouais. Et le cochon, et quand on va dedans, et bien, ils viennent par les pieds. Mmh. Ils aiment avoir le contact de l'être humain. Ouais. Et en bas, on s'aperçoit qu'on avait des cochons qui devenaient sauvages. parce que il fallait y aller, que les parcs étaient très grands, donc du coup ils ne nous voyaient pas forcément et ça allait plus quoi, il n'y avait plus de relation avec l'être humain. Donc voilà, donc on a arrêté par rapport à ça.
Vous avez des petites chèvres aussi?
Ouais, ben ça c'est des mascottes hein.
C'est pour manger les ronces ou ce genre de choses
hein? Non, là vous c'est fait pour manger tout le plastique alors.
Ah non, mais bien ça.
Ouais. En fait, c'est des chèvres apprivoisées et des mini là, c'est des mini. Et voilà, elles viennent là et elles se promènent toute la journée.
Ouais, voilà, elles promènent.
Voilà.
C'est... Ah ben, ma foi,
les chiens les connaissent.
C'est la belle vie quoi.
C'est, alors là, c'est la belle vie pour elles.
Voilà. D'accord.
C'est, ça c'est pour l'amusement. Et après l'été, quand on fait visiter ou qu'il y a beaucoup de tourisme, c'est les enfants.
Ouais, pour les gosses.
C'est et cool. Elles viennent là comme ça, elles se font caresser et tout. C'est, donc pour les enfants, c'est merveilleux quoi. Alors au début, on avait fait le parc là. Ce parc là, c'était fait pour les chiens.
D'accord.
Et on a été obligé d'ouvrir parce que tout le monde venait, ils ouvraient les portails, ils ne refermaient pas, tout ça. Bon, un jour, on dit, allez, maintenant, on va les laisser en liberté.
D'accord.
Et en fait, elles ne sont pas parties. On croyait qu'elles allaient partir.
Elles sont bien ici.
Et donc, maintenant, elles sont là.
Ouais.
Et alors, ça mange de tout.
Ouais.
Ah, c'est incroyable, cette bestiole.
On dit qu'il faut surveiller, même, que ça va bouffer les rosiers, ce genre de trucs.
Ah, mais ça mange toutes les plantes, hein, toutes les fleurs, tout. Mais ça mange tout le plastique. Hein. C'est
couillon quand même.
Moi j'aurais jamais cru une truc pareille. Là, je voudrais voir.
Ouais, les câbles électriques et tout là.
Non, mais la pierre de sel, les pierres de sel là-bas, ce qui est blanc là, c'est les pierres de sel. Il y a le plastique tout autour. Mais c'est elle qui le mange au fur et à mesure. Elles font tout le tour. Elles m'avaient mangé, j'avais des. Là-bas c'est les anciens onduleurs. Ils étaient entourés de plastique. Mais il n'y en a plus, elles ont mangé tout le plastique. Hein. Hein,
ça les rend pas malades.
Eh bien moi j'ai cru qu'au départ. Il allait avoir un problème.
Mais alors.
Puis apparemment, et puis ça leur plaît. Ils disent, ils tirent sur le plastique.
Donc là, on est dans les enclos des.
Là, c'est des vaches, c'est l'élevage.
D'accord, c'est l'élevage.
Voilà, bon, les vaches ne sont pas, puisqu'elles sont dehors maintenant, elles sont pâturées. Mmh. Restent les veaux dedans, puisque les veaux, en fait, ont. Jusqu'à 8 mois, en fait, ils sont avec les mères. Mmh. Et après de 8 mois, on les sèvre.
D'accord.
Voilà. Et donc, on les laisse dedans. Parce qu'on s'est rendu compte que si jusqu'à 8 mois, ils ne mangent pas d'herbe, ça fait vraiment du veau, mais rosé, pas blanc. Et en goût, c'est bien meilleur.
Ouais.
Et quand on les met donc, à l'herbe, ça devient des broutards. Mmh. Et la viande, elle est beaucoup plus pisseuse en eau. Il y a beaucoup plus d'eau dedans. Mmh. Donc, c'est moins bon.
D'accord. Voilà. Puis, elle est plus foncée. C'est du...
Non, c'est... après, le foncé, c'est l'âge beaucoup qui fait. C'est surtout... mais c'est surtout... souvent, on vous dit, ouais, mais le veau, il coule de l'eau. Quand on le met à la poêle, il y a plein d'eau.
C'est vrai.
Mais c'est dû beaucoup à les modes d'élevage.
D'accord.
Et voilà. Donc c'est pour ça que nous, on ne fait pas d'ensilage. Voilà, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de produit dit conservateur ou tout ça, quoi. C'est vraiment du foin, du grain, et basta, quoi. La priorité des priorités, c'est toujours le consommateur.
Et ce que vous leur donnez à manger, c'est vous-même qui le produisez ?
C'est nous qui le produit.
D'accord.
Voilà. C'est du foin qu'on récolte sur les champs, des céréales, voilà, c'est... Ouais. C'est vraiment nous comme produit. Ben, en agriculture biologique, on n'a pas trop le choix. Quoi.
Ouais. Je crois que c'est un minimum de 80% ou quelque chose comme
ça. Oui, mais c'est même pas ça. C'est que ça coûterait tellement cher d'acheter. Donc, et puis le but du jeu, quand on est vraiment en bio, c'est vraiment de faire consommer ce qu'on est capable de produire.
Ouais.
Donc voilà, nous, la ferme, elle travaille vraiment pour la qualité de la viande. On est toujours, toujours, toujours à la recherche de vraiment, quand on vend une viande aux consommateurs, il ne faut surtout pas qu'ils me disent ben, y a de l'eau, c'est dur.
Pas de goût.
Alors
là, s'il y en a un qui me dit.
S'il y en a un qui me dit que l'Aubrac elle a pas de goût, moi j'ai compris. Soit il a eu le corona ou quelque chose, hein, parce que là.
Mais c'est ça, ouais.
Parce que c'est pas possible. Le consommateur de lui-même, quand même, comment il peut penser qu'il y a une telle différence? Soit moi je suis un bandit, je suis un voleur, je le vends hyper cher, ou soit la qualité du faux filet de la grande surface, il est peut-être pas ce qu'il devrait être. Mais enfin. Quand même, c'est au consommateur à savoir ce qu'il fait. C'est pareil, si vous, demain on vous dit, ben moi je te vends une Ferrari à 54% de son prix, il va bien y avoir une couille quelque part.
C'est louche.
C'est louche. Non mais voilà, c'est. Donc c'est ça que j'arrive pas à comprendre, comment le consommateur peut se laisser berner comme ça, quoi. Et il va aller acheter du faux filet à 8€ le kilo. Et là où j'en veux le plus, alors ça va rester. Pareil, je vais me faire des amis. Moi je fais du porc, je sais combien ça me coûte un porc. Et bien vous avez. Beaucoup d'agriculteurs aux alentours, maintenant ils ne font plus le cochon à la ferme, comme ça se faisait à l'époque. Parce que bon, il n'y a plus le temps, souvent la personne, les femmes travaillent à l'extérieur, donc forcément il n'y a plus le temps de faire tout ça. Donc ils veulent faire, mais quand même ils veulent rester à la tradition de faire leur charcuterie. Et bien quand c'est la foire au porc, vous irez à Centrafrique. Quand Super U, enfin quand Père Marché font la foire au porc, vous avez tous les paysans, prennent les caddies, vont acheter du porc pendant la foire au porc pour faire la charcuterie chez eux.
D'accord.
Voilà. Et quand vous voyez ça, quand vous en arrivez là, vous dites, quand même, même les agriculteurs entre eux, ils arrivent à ne pas être solidaires. Enfin voilà. Moi, je n'ai jamais compris ça. Et après, ils sont fiers de dire, on a fait notre charcuterie. Oui, mais le cochon, quand même. Ouais. Ça, là, vous avez zigouillé un producteur de cochon, quand même. Parce que, mine de rien, celui-là, il l'a vendu à perte. Hein.
Ouais.
Donc voilà, j'arrive pas à comprendre ça, mais bon.
Mais ils ont la cote, les produits aveyronnais, dans l'Hérault, par exemple. Ça se vend très bien.
Ah, mais tout se vend. Hein. Moi, quand je dis, on ferait une boîte avec de l'air, on mettrait l'air de l'Aveyron, on en vendrait. Hein. C'est incroyable.
Personne n'y a pensé à ça.
Nous n'y a pas pensé. Bon, là, quand même, on n'a pas poussé le vice jusque-là. Non, mais une belle boîte décorée.
Avec fabriqué en Aveyron dessus.
Voilà. Et de l'air. Le bon air aveyronnais, vous le prenez tous les jours, vous respirez, vous refermez. Et voilà.
Ça se vendrait,
mais oui, carrément. Voilà, parce que là-bas, ils en ont marre de... Enfin, surtout, moi, je parle quand je vais après Marseille, là-bas. Vraiment, c'est vraiment la côte méditerranéenne. Encore Montpellier, ils arrivent quand même à avoir beaucoup de produits. Mais là-bas, quand vous descendez après Marseille, à Nice, à Monaco, là-bas, ils ont rien. Ça vaut rien, ce qu'ils ont.
Bon, mais c'est bon, on a fait le tour.
Là, on est revenu pour
une fois. Ben ouais, je vois ça. Bon, ben merci beaucoup, Guillaume.
Avec plaisir.
D'avoir passé ce temps avec nous.
Eh ben, mais...
Hein?
Ouais,
et je vais peut-être... Vous avez des côtes de porc ou pas? J'ai un barbecue ce week-end.
Ah, ben alors.
Hein?
Merci à Guillaume de nous avoir communiqué sa passion toute une après-midi durant. Retrouvez les paroles rurales sur le site internet de radiocentafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.